Alors, un excellent sabbat à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner un sermon axé principalement sur un des livres de la Bible, Lamentations de Jérémie. Et c'est le titre de mon message. C'est un livre auquel on se réfère rarement et qu'on utilise rarement dans nos études bibliques personnelles, bien que c'est très chargé de signification. Et aujourd'hui, pour préparer le message, je me suis inspiré des travaux de M. John Ogwin, un évangéliste de l'Église, longtemps évangéliste de l'Église, qui est décédé depuis quelques brèves années, un monsieur spécial auquel Dieu a donné vraiment des compréhensions particulières. Et quand j'ai étudié ces passages-là, je me suis dit, il faut que j'utilise ça pour bâtir un sermon pour l'Église. Et en même temps, un sermon qui va servir à d'autres par la suite aussi. Alors, Lamentations de Jérémie, c'est un livre prophétique qui annonce des événements sans pareil, majeurs, graves, qui doivent se produire à notre époque. Et c'est pour ça que je tiens à donner le message aujourd'hui, parce que, comme la plupart d'entre vous le réalisez, nous sommes entrés dans des temps qui ne sont pas normaux. Et il faut savoir qu'est-ce qui vient. Dieu dit qu'il révèle à ses serviteurs les choses qu'il va faire. Et c'est pour ça qu'il nous donne de pouvoir comprendre ces choses-là et d'en informer les membres de l'Église. Allez à Jérémie chapitre 1, s'il vous plaît, le premier chapitre du livre de Jérémie. Ce n'est pas Lamentation, là, parce que Jérémie a écrit d'abord Jérémie avec les 52 chapitres. C'est un livre très long. Jérémie, nous, on va aller au chapitre 1. Et après ce livre-là, Jérémie a écrit une continuation qu'il a appelée « Lamentations de Jérémie ». Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce qu'on va voir dans le livre de Lamentations, ça a un lien direct avec le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir que ça se recoupe, là. Il y a des choses qui vont directement avec ça. Et ça a un lien direct avec les temps de la fin où nous sommes conscients de vivre. Vous savez, en tant qu'Église de Dieu, on a des responsabilités. Le Christ avait dit « Allez par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations » et tout ça, c'est le rôle qu'on a à faire, pas pour convertir les gens, mais pour rendre témoignage, pour avertir de ce qui vient. Et parmi ceux qui entendent, Dieu appelle un certain nombre de personnes, il leur donne d'avoir un intérêt plus grand et de vouloir marcher avec Dieu. C'est comme ça que Dieu opère. Alors, nous, en tant qu'Église, on a cette responsabilité-là d'annoncer ces choses-là, d'abord aux nations israélites et ensuite au monde. Et en plus, bien sûr, comme je viens de mentionner, de les expliquer aux membres de l'Église pour que les membres de l'Église soient encouragés par ça et qu'ils savent comment se préparer. En résumé, pour se préparer à ce qui vient, il s'agit d'être proche de Dieu et de s'appliquer à faire sa volonté dans notre façon de vivre, dans notre façon de penser. Jérémie, c'est fascinant parce que Jérémie a été choisi par Dieu avant même sa naissance. Il a été choisi par Dieu avant même sa naissance pour prêcher, pour prophétiser par rapport à ce qui allait arriver à son époque et par rapport à ce qui allait arriver plus tard et jusqu'au moment où nous sommes, jusqu'au temps de la fin. Alors, lisez Jérémie, chapitre 1, versets 4 et 5. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » C'est Jérémie qui écrit. « Avant que je t'ai formé, » là, c'est Dieu qui parle, « avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Dieu est puissant. « Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, déjà, Dieu avait choisi cet homme-là dès le sein de sa mère pour lui donner un travail précis, lequel il a fait pendant quelques dizaines d'années. Ça n'a pas été facile pour lui. Le livre de Jérémie qu'on a devant nous ici maintenant a été écrit vers 590 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est plus de 100 ans après que les tribus du Nord, les 10 tribus israélites du Nord, avaient été amenées en captivité. Il restait seulement Juda en bas, les tribus du sud et dans la ville de Jérusalem et autour. Et ça a été écrit aussi quelques années avant que Juda, qu'on appelle aussi ici Jérusalem, soit à son tour amené en captivité. Les 10 tribus du Nord ont été d'abord amenées en captivité, puis plus tard, les tribus du Sud ont été amenées en captivité. Jérémie a commencé son ministère, ou son travail, si vous voulez, à l'époque d'un très jeune roi, Josias, qui est monté sur le trône à l'âge de 8 ans. Il y a eu des gens qui se sont occupés de lui, qui l'ont préparé, et ce roi-là a été, contrairement à ceux qui l'avaient précédé, un roi juste. Et il a ramené la nation d'Israël à la connaissance et à l'obéissance au vrai Dieu, ce qui avait été rejeté. Israël était allé dans l'idolâtrie, Juda et Benjamin, ceux qui habitaient la région. Alors, il a ramené la nation d'Israël au sud dans l'obéissance à Dieu. Maintenant, lamentation de Jérémie, ça veut dire quoi? Je pense que vous savez en gros ce que ça veut dire, lamentation. Ce sont des gémissements, donc ce n'est pas quelque chose d'agréable, là. Ce sont des gémissements, ce sont des longues plaintes, et ça exprime le désarroi, la désolation et la tristesse. Parce que Jérémie faisait partie de cette nation-là, et dans le fond, Dieu avait dit d'annoncer des choses qui venaient, qui n'étaient pas drôles. Et il a vécu à travers ces choses-là aussi. Lui-même en a souffert énormément. Alors, ça se comprend qu'à un moment donné, comme ça arrive à tout le monde, même à nous, d'avoir des creux, Jérémie a eu des moments extrêmement difficiles. Et à un moment donné précis, il a écrit le livre des Lamentations quand il a synthétisé tout ce qu'il avait à faire et qu'il a réalisé ce qui allait venir. Il a eu une mission longue, quelques dizaines d'années, comme je vous dis, puis très difficile. Même, il a été passé proche d'être mis à mort à quelques reprises. Il avait été, à un moment donné, jeté dans un puits, dans la boue, et si ça n'avait pas été de certaines personnes qui sont intervenues auprès du roi qui voulait l'éliminer, il serait mort là. Il est arrivé différentes circonstances dans sa vie comme ça. Il avait un travail à faire, mais qui n'était pas facile. Mais il a tenu le coup et Dieu était avec lui. Alors, c'est après la mort de son ami Josias. D'ailleurs, le roi Josias avait à peu près la même âge que lui. Il avait quelques années de différence. C'est après la mort de Josias que Jérémie a écrit le livre des Lamentations. Et dans ce livre-là, il a prophétisé la destruction qui allait frapper la nation de Juda à son époque, Jérusalem à son époque, et d'autres aussi. Et en plus, il a annoncé deux autres destructions qui allaient venir plus tard dans le temps. La première destruction, elle a été comme l'annonce des autres qui allaient venir. Alors, c'était tout contenu là-dedans. Et la dernière destruction, la troisième, dont il est question dans le livre, elle est plus grande que toutes les autres. Et c'est celle qui va se produire à notre époque, là où nous vivons. Je vous résume ce qui est arrivé. Première destruction totale et captivité, ça a été sous Nebuchadnezzar, 587 avant Jésus-Christ, sous Nebuchadnezzar. Et comme je vous dis, ça préfigurait l'autre destruction de Jérusalem et la captivité qui allait venir, mais beaucoup plus tard, en l'an 70 de notre ère, comme le Christ l'a annoncé. C'était déjà compris dans le message de Jérémie, si vous voulez. Alors, deuxième destruction de Jérusalem et captivité des gens amenés en esclavage en l'an 70 de notre ère, quand les Romains ont détruit Jérusalem, tel que le Christ l'avait annoncé. Allez dans Matthieu 24, on va le voir. Matthieu chapitre 24. On va mettre ensemble comme les morceaux d'un casse-tête, si vous voulez, les éléments des choses qui s'en viennent, qui avaient été annoncées, et on va voir davantage ce qu'il y en est. Matthieu 24, versets 1 et 2. « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. » C'était un des édifices les plus fabuleux de l'époque, le temple. Alors, les disciples ont dit, « Wow, regarde comment c'est beau, le temple. » Et là, le Christ en a profité pour leur enseigner ce qui allait venir. Il dit, « Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. » Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors, il a annoncé la destruction de Jérusalem et la destruction du Temple, qui est arrivée en l'an 70, quelques années après que le Christ a eu annoncé ça et après que le Christ a retourné au ciel. Et cette deuxième destruction de Jérusalem préfigurait celle qui s'en vient, la dernière, la troisième qui a été prévue par Jérémie. comme on va voir. Bon, allez maintenant au verset 3 pour vous montrer que ça préfigure la troisième destruction, c'est-à-dire la grande détresse qui est annoncée à notre époque. Verset 3. « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui poser cette question. » Parce qu'il avait entendu parler le Christ, avait entendu le Christ annoncer qu'il allait revenir sur la terre pour établir son gouvernement, et c'était ça la bonne nouvelle, OK? Alors, eux voulaient savoir quand est-ce que ça allait se passer, et ils espéraient que ça allait être le plus tôt possible, c'est normal. Alors, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement? Donc, ça va être quoi le signe quand tu vas revenir? Et quand ça va se produire, ça, la destruction du temple que tu dis, là? Bon? La destruction du temple, elle est arrivée quelques années après, mais le retour du Christ n'est pas arrivé en 70 de notre ère. Ça, c'était pour beaucoup plus tard. On le voit au verset 14, un petit peu plus loin. Mettez ça ensemble, verset 14. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle qu'un gouvernement mondial dirigé par le Christ sera établi sur la terre, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêché dans le monde entier. » Laissez-moi vous dire que ce n'était pas possible au temps du Christ de prêcher ça dans le monde entier. Il voyageait en bateau, à voile, à dos d'âne, à cheval, et ce n'était pas possible. Maintenant, avec les moyens de technologie qu'on a, on peut prêcher dans le monde entier instantanément ou pratiquement. Alors, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, ce n'était pas possible à toutes les nations non plus. Alors que nous, on est présents avec le message dans toutes les nations de la terre, moins deux places, comme je vous ai déjà parlé. Mais on est tout proche de terminer. Le monde entier pour servir de témoignage, pas pour convertir les gens, pour les avertir. À toutes les nations, et regardez qu'est-ce qu'il dit après. « Alors viendra la fin. » Alors là, il parle de la troisième destruction de Jérusalem, de celle qui s'en vient. Le Christ a donné cette réponse-là. Et tout de suite après, il précise qu'est-ce qui va arriver lors de la troisième destruction de Jérusalem, la grande détresse. Regardez verset 21, juste un peu plus loin. Notez ces versets-là dans l'ordre que je vous les donne. Vous allez être capable de refaire l'étude ensuite, puis de mettre ensemble les morceaux du casse-tête pour que ce soit clair. Regardez le verset 21. « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc, la chose la plus terrible de toute l'histoire de l'humanité, c'est la grande détresse que le Christ a annoncée. Alors, le livre de Lamentations, dans ce sens-là, décrit ce qui va arriver à nos nations d'ici quelques brèves années. Ça va ensemble, ça se recoupe. Maintenant, je veux préciser quelque chose. Parfois, dans les textes ici, le mot « Jérusalem » est souvent utilisé pour désigner les tribus d'Israël, la nation d'Israël dans son ensemble. Des fois, on dit Jérusalem, mais quand on voit par le contexte, ça veut dire les tribus d'Israël ou la nation d'Israël. Parce que vous savez que Israël a vu son nom être changé par Dieu. Il s'appelait au début Jacob. Il y a Abraham, qui a eu Isaac. Isaac a eu Jacob, et qui est le petit-fils d'Abraham. Et Jacob, Dieu a changé son nom en Israël. Israël a eu 12 fils. Okay? Un de ces fils-là, c'est Judas, l'ancêtre des Juifs. Mais il y a eu d'autres fils aussi, les 11. Ils sont quelque part sur la terre, les descendants de ces nations-là ici. Alors, parfois, on parle de Jérusalem comme étant les nations d'Israël. Et le livre de Lamentations, je reviens là-dessus, décrit la grande détresse. D'abord sur les nations israélites et principalement sur les États-Unis et l'Angleterre. Éphraïm est menacé dans la généalogie. Alors, la Lamentation décrit la grande détresse qui va frapper d'abord les nations israélites, principalement d'abord les États-Unis et l'Angleterre, et ensuite va s'étendre au monde entier. On voit dans les textes. Il y a seulement 5 chapitres dans le petit livre de Lamentation, vous pourrez les lire. Là, aujourd'hui, dans le message, on va simplement jeter un coup d'œil d'ensemble. Allons à Lamentation, chapitre 1 maintenant. Et moi, ce que j'ai fait, vous pourrez faire ça si vous avez un petit carton ou un papier. On va revenir souvent dans Lamentation. Alors, vous pouvez laisser un signet dans la première page de Lamentation parce qu'on va revenir régulièrement. Lamentation, chapitre 1, verset 1. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée, Jérusalem. Donc, les nations israélites, là. La nation d'Israël. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Autrement dit, ces nations-là ont été grandes sur la terre, mais à un moment donné, elles seront réduites à l'esclavage, réduites à la servitude. Maintenant, je reviens au début. En français, dans notre Bible, c'est marqué « et quoi ». Ça ne veut pas dire grand-chose au début. Mais quand vous regardez dans le texte hébreu, le mot qui est utilisé, c'est Q-I-Y-N-A-H. Ki-ina. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne, non, mais ça, c'est en hébreu. Et en hébreu, ça veut dire « comment ? » Comment ça se fait ? Comment c'est possible que cette chose-là arrive ? C'est une expression qui veut dire ça, alors qu'en français, « et quoi ?» ça ne dit pas grand-chose. Mais dans le texte hébreu, ça veut dire « comment ça se fait que ça arrive, ça ?» Comment ça se fait que ça arrive dans nos pays aussi prospères et aussi riches que l'Angleterre, avec les pays du Commonwealth, le Canada, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et ainsi de suite, et que ça arrive aux États-Unis? Comment est-ce que c'est possible? C'est ce que les gens vont dire quand les calamités annoncées vont arriver. Parce qu'ils vont dire, c'était pas possible, on était tellement grand, on était puissant, on était riche. Et maintenant, on est rendu abattu. Comment est-ce possible que des nations aussi solides et prospères que l'Angleterre et les États-Unis soient rendues à ce point qu'ils aient tombé aussi bas? Les États-Unis, gendarmes du monde jusqu'à dernièrement, puissance mondiale respectée et maintenant décriée et méprisée de plus en plus, on le voit par les réactions des gens par rapport aux États-Unis actuellement. Et cette chute-là s'accélère. Angleterre, même chose. L'Angleterre a perdu son grand prestige. Elle est en train de perdre ce qu'elle avait de riche. Les banques fuient actuellement avec le Brexit et tout ça. L'Angleterre, à un moment donné, avait des colonies tout autour de la planète, de sorte qu'on disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique parce qu'ils avaient des colonies tout autour de la planète. Un tout petit pays comme l'Angleterre, parce que ça allait avec les promesses que Dieu leur avait faites. Dieu a respecté ses promesses, il leur a donné bénédiction à eux, Éphraïm, et Manassé, les États-Unis. Mais ils vont dire à un moment donné, comment ça se fait qu'on est tombé aussi bas? C'est que nos nations ont perdu de vue que toutes les bénédictions que nous avons viennent de Dieu. Ça vient de Dieu. Comment ça se fait que nos nations ont une agriculture aussi riche, qui a autant d'eau, autant de cours d'eau, autant de richesses minérales et tout ça, alors que d'autres pays dans le monde n'ont pas ces richesses-là? Quelque part, ça vient des bénédictions que Dieu accorde à cause de l'obéissance d'un homme, Abraham, au point de départ. Dieu avait dit, je vais te bénir, je vais bénir ta descendance et toutes les nations de la terre seront bénies à travers tes descendants et il y a des rois qui vont sortir de toi parce que tu as obéi à ma voix. Ça, vous pourrez aller voir dans Genèse 22, versets 15 à 19. Je n'y vais pas pour aller plus vite dans mon message, mais vous irez voir. Ces promesses-là de richesse nationale avaient été données par Dieu à Abraham concernant ses descendants et en particulier les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, qui ont reçu le droit d'aînesse pour les raisons qu'on peut donner. Alors, on a perdu de vue que ces choses-là venaient de Dieu et dans nos nations, on a perdu Dieu de vue aussi. On a rejeté ses lois, on a rejeté ses fêtes. Même on ne veut plus en entendre parler. Et c'est comme démodé ou insensé aux yeux des gens de parler de Dieu même. C'est rendu loin. Dieu laisse aller, mais à un moment donné, il va tirer la sonnette et ce sera terminé. Résultat, nos nations s'affaiblissent, perdent leur autorité, perdent leur prestige et perdent leur force. Allez dans Deutéronome chapitre 28. On va voir simplement qu'est-ce qui arrive à nos nations sur le plan financier qui avait été annoncé par Dieu. Deutéronome, au début de la Bible, chapitre 28, et on va lire le verset 43 à 45. Tout au long de la Bible, Dieu a donné des avertissements à son peuple. Si vous faites telle chose, vous allez être béni. Si vous me rejetez, si vous transgressez mes lois, il va y avoir des conséquences. Comme un père de famille fait. Dieu a fait la même chose avec la nation d'Israël. Il avait choisi cette petite nation-là pour qu'elle devienne un exemple de nation obéissant aux lois de Dieu pour les nations d'alentour. Mais ils n'ont pas suivi les voies que Dieu a données. Et regardez ce que Dieu avait dit comme avertissement, et ça s'applique particulièrement au temps de la fin à nos nations riches. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et remarquez depuis quelques années combien nos pays sont assaillis, pour ainsi dire, par une immigration fortunée qui vient acheter les terres, qui vient acheter les entreprises. Une partie de la production du pétrole dans l'Ouest canadien appartient maintenant aux Chinois. Alors, c'est ça ici. Dieu avait dit, si vous me rejetez, voici ce qui va vous arriver. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras point. Il sera la tête, et tu seras la queue. Avant, les États-Unis étaient un pays prêteur. Maintenant, ils sont un pays endetté jusque-là, et nous aussi. Et nous aussi. Et le mur s'en vient. Ça fait partie de ça. Vous pourrez vérifier, je me rappelle, en 1963, des études que j'avais faites, en 1963, le Canada n'avait pas de dette. 1963, le Canada n'avait pas de dette. À partir de ce moment-là, on s'est mis à vivre au-dessus de nos moyens et on est rendu là où on est rendu. Et les États-Unis, exactement la même chose. Et il dit, il sera la tête, l'étranger au milieu de toi, et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. C'est un choix. Nos nations avaient le choix, comme Adam et Ève ont eu le choix, comme la nation d'Israël a eu le choix à plusieurs occasions. Et regardez dans quel état se trouvent nos nations. Le prophète Ésaïe l'avait lui aussi décrit. Ésaïe, chapitre 1. Tout de suite après le livre des psaumes cantiques, des cantiques, Ésaïe, chapitre 1. Regardez dans quel état nos nations sont. Ésaïe l'avait prédit. Ésaïe 1, versets 2 à 5. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Et quand Dieu fait des déclarations, ce n'est pas sans importance. Et ça va où ça doit aller. « J'ai nourri et j'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Ça, c'est ce que nos nations israélites ont fait. Ils ont rejeté Dieu même jusqu'au point où aux États-Unis, ils n'ont même plus le droit à plusieurs endroits d'afficher les commandements dans les lieux publics. Ils ont rejeté Dieu au point de le mépriser. Et vous savez une chose, c'est marqué dans la Bible que si on méprise les lois de Dieu, il avait averti les nations d'Israël, si vous méprisez mes lois, si vous rejetez mes commandements, je vous enverrai la terreur, le terrorisme. Et depuis quelques années, c'est commencé. On voit ça clairement dans la Bible. Mais ils se sont révoltés contre moi. Et regardez le bel exemple qu'il donne. Moi, je me rappelle sur la ferme, mon frère le plus vieux avait soin des animaux et quand il sortait, quand il allait dans les champs ou dans le bord du bois, les vaches le reconnaissaient et venaient le trouver. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les nourrissait. Les animaux connaissent ceux qui les nourrissent. Et regardez ce que Dieu dit, il compare ça ici. Il dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Nos nations ne reconnaissent pas que toutes nos bénédictions viennent de Dieu. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Et c'est pour ça qu'on voit autant de violence, autant de mensonges, autant de fraudes, autant d'infidélité, autant de perversions sexuelles, avec toutes les conséquences affreuses que ça entraîne dans nos nations. Nos nations en souffrent. Parce qu'ils se sont séparés de Dieu et ils ne croient pas que les commandements de Dieu ont été donnés pour notre bien, pour notre bonheur. Alors, plus nos nations s'éloignent de ça, plus elles souffrent, absolument. Voyez le verset 7, ce qui s'en vient. Ça fait partie de la prophétie. « Votre pays est dévasté et nos pays seront dévastés. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. » Verset 8, « La fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. » Verset 9, « Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorre. » C'est-à-dire que Dieu, au bout de la grande détresse, va préserver un petit nombre de personnes vivantes. Mais s'il ne le faisait pas, nous serions comme Sodome et Gomorre, il n'y aurait pas aucun survivant. C'est ce qu'il dit ici, là. On serait comme le sort qui avait été réservé à Sodome et Gomorre. On revient à Lamentation. On revient à Lamentation. Chapitre 1, verset 2. En parlant d'Israël, la nation, elle pleure durant la nuit, ce qui va lui arriver. Elle va dire, comment ça se fait que ça m'arrive? Et elle va souffrir. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous les pays avec lesquels elle transigeait et qui étaient ses soi-disant amis, personne console Israël. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Et c'est pour ça que ces nations-là vont nous attaquer, vont envahir nos pays, comme la Bible le dit, et vont amener en captivité nos nations dans les camps de concentration, comme ça a été lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nous devons dire ces choses-là telles qu'elles sont, parce qu'elles sont annoncées dans la Bible. Pas pour faire peur, mais pour encourager en sachant ce qui vient. Dieu révèle à son peuple les choses qui s'en viennent pour qu'on se prépare. Et Dieu promet beaucoup d'encouragement, comme on verra aussi, à ses enfants fidèles. Je vais en parler tantôt. Nos nations, et en particulier les États-Unis, ont payé les autres nations pour qu'ils deviennent ses amis. Ce sont les États-Unis qui ont reconstruit l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont aidé l'Allemagne à se relever et les autres pays, avec la même attitude que Joseph, un peu, que leur ancêtre, d'aider les autres. C'est ça. Alors, nos nations ont payé pour se faire des amis, mais ces pays-là, maintenant, se détournent de nous et vont devenir littéralement nos ennemis jusqu'à nous attaquer. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la Bible. L'Allemagne sera en tête de l'Europe unie qui est en train de se finaliser. Et les autres pays de l'Europe qui seront avec elle vont envahir nos pays. Verset 4, même chapitre. « Les chemins de Sion ou de Jérusalem ou d'Israël sont dans le deuil, mais oui, avec la destruction qu'il y aura, car on ne va plus aux fêtes. » Là, je m'arrête. Il ne parle pas de Noël ici, puis de ces fêtes-là que nous ne célébrons pas. Il parle des fêtes de Dieu. On ne va plus aux fêtes, mais c'est même plus que ça. On ne les connaît plus. Et regardez, c'est marqué Lamentation 2, verset 6. Lamentation 2 et le verset 6. Regardez ce que Dieu dit. « Il a forcé sa clôture, la clôture de la nation d'Israël, ce qui la protégeait, comme celle d'un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion, dans Jérusalem, dans les nations israélites, les fêtes et le sabbat. Le voile est retombé, les gens ne comprennent plus ça, ils n'acceptent plus ça, ils ne veulent absolument rien savoir de ça, et Dieu a fait en sorte que ce n'est plus possible pour eux, à moins que Dieu les appelle, de comprendre les fêtes et de comprendre le sabbat. Les nations en général, nos pays, nos gens autour, même les gens de notre famille qui nous aiment, ne comprennent pas pourquoi on observe le sabbat, pourquoi on observe les fêtes. Pas parce qu'on est plus fin, plus intelligent, mais parce que Dieu nous l'a révélé et parce qu'on a choisi de les mettre en pratique, parce qu'on veut être ses serviteurs. Et Dieu réserve des bénédictions spéciales à ces gens-là. Alors, on ne va plus aux fêtes. Lamentation 1, revenez à Lamentation 1, verset 5. « Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix, ceux qui vont opprimer nos nations, car l'Éternel l'a humilié. Pourquoi? À cause de la multitude de ses péchés. Et qu'est-ce qui va se passer? Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. » Comme on voyait les films de la Deuxième Guerre mondiale, quand les enfants juifs et les enfants de d'autres nations amenés dans les lieux de concentration étaient amenés dans des conditions atroces pour être la plupart du temps éliminés ou souffrir des choses épouvantables. C'est des choses qui vont revenir. C'est pas agréable à regarder venir, mais il faut le savoir. Dieu veut qu'on sache les choses qui viennent et qu'on se prépare en conséquence. Verset 6. « La fille de Sion a perdu sa gloire. Nos nations vont perdre l'importance qu'ils ont et le prestige qu'elle pense avoir. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture. Ils auront faim et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Nos si puissants pays seront sans force. » Verset 8. « Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. » Elle-même soupire et détourne sa face. Verset 10. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Parce que quand des armées entrent dans un pays pour le conquérir, on ramasse tout le butin qu'on peut, toutes les choses précieuses. On l'a vu dans les autres guerres. C'est ce qui va arriver aux États-Unis, c'est ce qui va arriver en Angleterre, c'est ce qui va arriver en Australie, au Canada, ici. Sur tout ce qu'elle avait de précieux, elle a vu pénétrer dans son sanctuaire, regardez bien, les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Les nations israélites étaient considérées comme l'assemblée de Dieu. Et Dieu avait jusque-là protégé nos nations pour ne pas qu'elles soient conquises par d'autres nations. Ce qui va changer, comme on va voir tantôt. Début du verset 11. « Tout son peuple soupire. Il cherche du pain. » Pourquoi? Parce que ce sera la famine. Ils cherchent du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture, afin de ranimer leur vie. C'est accompagné de famine. Quand il y a invasion d'un peuple comme ça sur un autre territoire et qu'on prend du butin et qu'on amène les gens en esclavage, il y a famine pour ces gens-là. Verset 19. On continue. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. C'est Israël qui parle. Et on voit nos nations essayer de faire des liens encore avec plein d'autres pays pour se faire aider dans les situations qu'ils ont à vivre. « J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. » Les chefs religieux, les chefs de gouvernement vont expirer dans les villes. Ils n'auront plus de solution. Ils cherchaient de la nourriture. Les plus forts, les plus puissants, ceux qui sont dans les postes les plus élevés, peuvent essayer de trouver des moyens pour en trouver un petit peu plus longtemps de la nourriture que les autres. Il dit, ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie, parce qu'eux aussi vont manquer beaucoup. Et on va voir tantôt. Et on a vu dernièrement, avec la grande tempête qui a frappé les îles des Caraïbes, par exemple, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, quand la nourriture a manqué, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont commencé à faire le pillage, ils ont commencé à s'entretuer avec des machettes pour essayer de trouver à manger. C'est ce qui se passe quand la nourriture manque. Et Dieu dit, c'est ce qui va arriver à ma nation pécheresse. Il nous donne cette information précieuse. Et quand ces choses-là arrivent, il y a des réactions violentes, rapides de la part des gens. C'est le désespoir, il n'y a plus rien qui tient. De toute façon, il n'y a plus de policiers non plus, il n'y a plus d'armée, tout tombe, tout s'effondre. De telles situations vont se produire. C'est pas intéressant à dire, mais vont se produire dans nos pays. Parce que nos pays ont abandonné Dieu, ils refusent de se tourner vers Dieu, et plus que ça, ils méprisent Dieu. Ils méprisent Dieu. Et ça, c'est pas un bon signe de que les choses aillent bien dans ce sens-là. Heureusement, et là j'arrive à quelque chose d'intéressant qui va vous encourager aussi, dont certains d'entre vous connaissez la situation. Heureusement, Dieu promet. Et quand Dieu promet quelque chose, c'est comme certain, absolument. Dieu promet une protection spéciale sur la terre à ses fidèles serviteurs. Pas à ceux qui sont parfaits, on n'est pas parfait personne. Mais ceux qui vont être en train de faire sa volonté, Dieu dit, je vais vous protéger, je vais vous emmener dans un lieu à part sur la terre pour finaliser votre préparation aussi. Parce qu'après le retour de Christ, nous allons devoir aider les survivants de la Troisième Guerre mondiale. Nous allons devoir les guérir, les encourager, leur enseigner les lois de Dieu, leur expliquer ce qui est arrivé. Quand ils disaient, comment ça se fait que ça nous arrive? On va leur dire pourquoi c'est arrivé. Et on va leur expliquer les lois de Dieu. Allez dans Apocalypse 12. Et regardez la protection que Dieu promet à ses serviteurs. Apocalypse, chapitre 12, verset 14. On peut commencer au verset 13. « Quand le dragon, c'est-à-dire Satan, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. » Et cette femme-là ici, c'est une femme pure. C'est l'épouse du Christ. C'est la petite Église qui est formée de ceux que Dieu appelle maintenant, qui est la fiancée du Christ, comme Paul en parle. Alors, Satan va poursuivre la femme, va poursuivre l'Église pour essayer de la détruire. Mais regardez, la promesse de Dieu au verset 14. « Et les deux ailes du grand aigle, » en parlant de Dieu, « les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, à sa petite Église, qui continue de se purifier et d'accomplir son œuvre. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin que quoi? Qu'elle s'envole au désert. » C'est sur la terre, au désert, vers son lieu. Il y a un lieu précis que Dieu a en tête. On ne sait pas où, mais un lieu précis que Dieu a en tête. Qu'elle s'envole vers son lieu où elle est nourrie un temps, une année, des temps, deux ans de plus, et la moitié d'un temps, trois ans et demi, loin de la face du serpent. Alors, la petite église de Dieu, de façon qu'on ne peut pas expliquer, Dieu va nous le montrer en temps et lieu, sera amenée à un lieu de sécurité où elle sera nourrie pendant les trois années et demie de la grande détresse. Les 42 mois dont parle la Bible qu'on voit dans le livre d'Apocalypse aussi. Ça correspond exactement à 1260 jours que c'est mentionné ailleurs. Apocalypse 3, on a la même promesse qui est répétée par Dieu ici. Apocalypse 3, Dieu parle de son Église fidèle. Verset 10, regardez ce qu'il dit. « Parce que tu as gardé, Apocalypse 3, verset 10, « parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Et nous devons être persévérants en mettant en pratique ce qu'il nous montre dans sa parole. Et il dit « Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi, je te protégerai. » Quand? À l'heure de la tentation, dans le sens de l'épreuve, à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La même promesse que tantôt, faite à la femme qui sera amenée au lieu de sécurité. Il dit « Parce que vous avez gardé ma parole, il dit, je vais vous garder aussi, je vais vous protéger à l'heure de l'épreuve. » Et voyez-vous que c'est le temps de la fin, regardez le verset 11 tout de suite après. « Je viens bientôt, c'est le temps de la fin, c'est le retour de Christ. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La grande détresse va bientôt frapper nos nations israélites descendantes de Jacob. C'est d'ailleurs décrit dans Jérémie 30. Allez à Jérémie 30, ça vaut la peine. Jérémie, chapitre 30. Très, très clair. Ah, on va lire le verset 2, tiens. On va voir ce que Dieu a planifié de faire. Dieu voulait que ces choses-là soient écrites et qu'elles nous parviennent. Regardez ce qu'il dit à son prophète. Dieu parle à Jérémie ici, verset 2, chapitre 30. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre... » toutes les paroles que je t'ai dites. Pourquoi? C'était pas pour Jérémie, c'était pour nous autres. C'est pour ça qu'il a préservé la Bible aussi, pour qu'on puisse connaître ces choses-là, qu'on puisse savoir quoi faire. Maintenant, allons plus loin. Là, je parle de la grande détresse qui va frapper Israël au temps de la fin. Verset 7. « Malheur, car ce jour est grand, cette époque qui est devant nous, l'époque de la grande détresse. » Et regardez, il précise après. « Il n'y en a point eu de semblable. » Il n'y en a pas eu d'autre. Détresse aussi grande que ça dans l'histoire de l'humanité. C'est au temps de la toute fin que ça se produit. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, pour Éphraïm et Manassé en particulier. Et si vous allez voir dans Genèse 48, versets 15 et 16, je ne m'y reporterai pas, mais dans Genèse 48, versets 15 et 16, quand le vieux Israël a imposé les mains à Éphraïm et Manassé, les enfants de Joseph, à ce moment-là, il a dit... « Voici, je transmets mon nom à ces deux enfants-là. » Et c'est pour ça que Éphraïm et Manassé portent le nom d'Israël de façon spéciale et qu'ils sont les tribus qui ont été tellement bénies aussi. Mais on voit après, « Mais il en sera délivré. » Alors, c'est un jour comme il n'y en a pas eu, une période comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Jacob, c'est-à-dire les nations israélites, vont souffrir comme jamais auparavant, mais... à la fin, Dieu va les délivrer. Il ne permettra pas qu'ils soient détruits totalement. Et je reviens à ça, sur le verset 7. Il n'y a pas eu de jour semblable à ça dans l'histoire et il n'y en aura pas non plus. C'est le temps le plus terrible de toute l'histoire de l'humanité. Et il ne peut pas avoir deux temps le plus terrible dans l'histoire de l'humanité. Il peut en avoir juste un. C'est celui-là dont il est question ici et qui est question à différents endroits. Il ne peut pas y avoir deux temps le plus terrible. C'est le même temps qui a été annoncé aussi par le Christ. Retournons dans Matthieu 24. Le Christ l'a annoncé aussi. Ce temps-là unique, sans pareil. Matthieu 24, regardez le verset 21. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » On voit par ça qu'il parle exactement de la même période. Ça, c'est le Christ qui l'a annoncé, juste avant son retour. Cette grande détresse qui va précéder son retour. Alors, les prophètes de Dieu l'avaient annoncé dans l'Ancien Testament. On le voit à plusieurs endroits. Je ne vous les ai pas toutes énumérées. Et le Christ l'a donné de façon précise. Mais allons voir, par exemple, seulement Daniel. Daniel, chapitre 12. Le prophète Daniel en a parlé aussi, de ce temps unique. Daniel, chapitre 12. Et le verset, début du verset 1. « En ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il parle, voyez-vous, de la même période qui est unique. Il n'y en aura jamais eu de pareil, puis il n'y en aura pas d'aussi terrible après. Et on peut le voir, hein, un peu plus loin au verset 4, qu'il s'agit bien de cette période-là. Verset 4 de Daniel. Regardez ce que Dieu a dit à Daniel. C'est fascinant. Puis en même temps, ça nous montre la bénédiction qu'on a aujourd'hui de pouvoir comprendre ces choses-là. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Dis-les pas à personne, écris. Tiens secrète ces paroles. Scelle le livre. Le livre de Daniel était scellé. On ne pouvait pas le comprendre. Scelle le livre jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Scelle le livre. Il ne sera pas compris tant qu'on ne sera pas rendu au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera chez ceux qui deviennent les serviteurs de Dieu. C'est fascinant, hein? Daniel a écrit ces choses-là. Dieu dit, t'explique rien, écris ça dans un livre. Les gens ne comprendront pas au cours de l'histoire. Ils vont comprendre quand on sera rendu au temps de la fin. Et en plus, on peut comprendre avec les événements qui se passent aussi. Une dernière place dans Luc 21, où on décrit la même chose. Luc, chapitre 21. À partir du verset 20 à 24. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, c'est-à-dire entourée par les armées, et c'est ça qui va venir, on l'a vu dans l'Ancien Testament, dans les Lamentations, on le voit dans le Nouveau Testament aussi, les armées vont se réunir autour de Jérusalem. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » La troisième destruction dont Jérémie a parlé dans Lamentations. Et que le Christ a annoncé, quand il a dit « jour-là, il va y avoir une détresse comme il n'y a jamais eu ». Il dit « Sachez alors que sa désolation est proche ». Verset 21. « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Dieu n'a pas fait écrire ça pour rien. Ces choses-là vont arriver. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. » Pourquoi? Est-ce que c'est un péché d'être enceinte ou d'allaiter? Absolument pas. C'est que ça sera plus difficile pour les dames qui seront enceintes ou qui vont allaiter dans ces circonstances-là, avec la fuite qui devra avoir lieu et ainsi de suite. C'est ça qui est mentionné, parce que c'est pas un péché. Au contraire, Dieu est un Dieu de famille. « Car il y a une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Nos pays seront envahis, investis par des armées, seront amenés en captivité. » Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, c'est-à-dire le 42 mois, le 3 années et demie dont la Bible parle à différents endroits. Alors tout ça, ça se tient. Revenons maintenant à Lamentations, s'il vous plaît. Lamentations, chapitre 1, verset 14. « Sa main a lié le joug de mes iniquités. » Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Donc, les péchés d'Israël sont lourds sur son cou. Dieu a brisé ma force. Il a brisé ma force. C'est Israël qui parle encore. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Qu'est-ce que ça veut dire? Israël dit, tu m'as livré dans des mains auxquelles je ne peux pas résister. C'est la bête, l'Europe unie, sous la direction de l'Allemagne. Son ancien nom, c'est l'Assyrie, A-S-S-Y-R-I-E. Allez dans Ésaïe 10. Gardez votre place ici, puis allons dans Ésaïe 10, où c'est confirmé ce que je vous dis. Ésaïe, chapitre 10, versets 5 et 6. Ici, Dieu parle des Allemands. Et Dieu va faire que les Allemands soient punis à leur tour à un moment donné. Mais Dieu dit ici, « Malheur à l'Assyrien, aux Allemands, Verge de ma colère, Dieu va se servir du peuple allemand, comme il s'en est servi dans le passé, lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale, même si ça ne l'a pas réussi. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Alors Dieu dit, la puissance que je vais permettre à l'Allemagne à ce moment-là pour diriger l'Europe unie, c'est la verge de ma colère sur la nation d'Israël. Verset 6, « Je l'ai lâché, l'Assyrien, l'Allemand, contre une nation impie. » Dans le texte original, c'est hypocrite. Ma nation d'Israël qui me connaît, qui m'a renié. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux ou de mon châtiment, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, et pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. C'est puissant. Revenons maintenant à Lamentation 1, verset 14. Ce que je viens de vous dire qui va avec Ésaïe, chapitre 10. « Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. » Et nos nations israélites ne pourront pas résister lors de cette grande invasion contre l'armée allemande avec toutes les armées de l'Europe unie à ce moment-là. Ils ne pourront pas résister. Verset 15. « Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. » La grande armée des États-Unis, de l'Australie, des États-Unis ne pourra pas tenir. Ni ceux de l'Angleterre. D'ailleurs, ils ont construit d'immenses navires, des porte-avions. Ils n'ont même pas l'argent pour mettre des avions dessus en Angleterre, tellement ils sont rendus affaiblis. Et ça va continuer. Et Israël dit à Dieu ici, « Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Juda. » Verset 20. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi. Pourquoi? Car j'ai été rebelle. Je t'ai rejeté. Et regardez après, il précise encore. Au dehors, l'épée a fait ses ravages. Autrement dit, du dehors est venue la guerre, l'épée. On a été attaqué par l'extérieur, par nos anciens amis, les anciens alliés du Canada, de l'Australie et des États-Unis. Alors, l'épée a fait ses ravages. Au-dedans, ça c'est au-dedans de la nation, dans le pays. Quoi? La mort. Comment? Par la famine, par les épidémies qu'on voit ailleurs. Je ne m'y reporterai pas par manque de temps, mais à l'intérieur, il y aura des problèmes graves. Lamentation 2, on continue. Je vais vous faire un survol. Lamentation 2, verset 1. Et quoi? Encore la même expression. Et quoi? Comment ça se fait? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il a écrasé la beauté de nos pays. Il a voulu qu'il en soit ainsi. Comment est-ce possible? Verset 3. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Et on voit dans les malédictions qui sont décrites dans l'Ancien Testament, ailleurs aussi, dans Deutéronome puis dans Lévitique, Dieu dit, « Je briserai l'orgueil de votre force et je rendrai votre ciel comme de l'airain et votre terre comme du fer. » Et ça fait partie de toutes ces annonces-là que Dieu avait faites si on se détournait de lui. « Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tout côté. » Verset 5. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Et regardez le début du verset 6. Il a forcé sa clôture comme celle d'un jardin. Il a forcé sa clôture comme celle d'un jardin. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Quand on lit ça la première fois, on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a forcé sa clôture comme celle d'un jardin. C'est que Dieu, jusqu'à maintenant, avait mis une clôture de protection autour des pays israélites. Comme on met autour d'un jardin pour nous protéger des bêtes de l'extérieur qui peuvent venir détruire. Il dit, Dieu a forcé la clôture qu'il avait mise autour de sa nation pour la protéger. Mais il va enlever cette clôture-là. Il l'a forcée. Il l'a jetée à terre. Vous savez, quand vous regardez l'histoire, les États-Unis et l'Angleterre n'ont jamais été conquis par d'autres peuples. Ils n'ont jamais été, ils ont été attaqués. L'Angleterre surtout. Mais ils n'ont jamais été conquis par d'autres peuples. Vous regarderez dans l'histoire. L'Angleterre, par exemple, a résisté à cause de la clôture de protection que Dieu avait mis, Quand vous regardez, par exemple, l'armada espagnole que le roi avait envoyée en 1558, j'en ai parlé dans un autre message, Dieu a mis sa main de façon miraculeuse pour ne pas que l'Angleterre tombe. Ça s'est produit dans l'histoire. Après ça, Napoléon a essayé d'attaquer l'Angleterre pour envahir. Ça n'a pas été possible. Et après ça, à deux reprises, vous avez eu à la Première Guerre mondiale le Kaiser qui a essayé de s'emparer de l'Angleterre. Ça n'a pas réussi. À la Deuxième Guerre mondiale, encore l'Allemagne. Le Kaiser, c'était le chef de l'Allemagne, Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, c'est Hitler. Et Dieu encore a protégé l'Angleterre. Ils ont été attaqués, mais ils n'ont pas été conquis. Et ils n'ont pas été envahis. Ils n'ont pas été amenés en captivité. Ce qui sera le cas la dernière fois, dans la troisième qui s'en vient. Dieu va enlever totalement la clôture ou la muraille de protection qu'il a mis autour de son peuple. Lamentations 2, versets 8 et 9. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. La clôture de protection, là. Il avait décidé de la détruire, la clôture. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir exterminés. Il a plongé dans le deuil, remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Il ne protège plus du tout, au contraire. Verset 9, « Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. » Pourquoi? Parce qu'ils sont amenés en captivité, eux aussi, parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. C'est fort. Par amour, Dieu va enseigner une leçon à la nation d'Israël. Versets 11 et 12, même chapitre. « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. » Et regardez ce qui va se passer. « Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, « Où est-ce qu'il y a du blé ou du vin? » Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. » C'est quoi ça? C'est la famine annoncée. C'est la famine annoncée. Et je n'irai pas plus loin, mais vous pourrez voir dans le même chapitre que les gens vont se livrer, comme ça arrive dans ces circonstances-là, au cannibalisme. C'est-à-dire manger de la chair humaine parce qu'il n'y aura pas autre chose. Verset 14. « Tes prophètes, donc tes enseignants religieux, les nombreuses religions dans les pays israélites, là, tes prophètes, tes faux prophètes dans le fond, ont eu pour toi des visions vaines et fausses. » Dieu appelle les choses comme elles sont. Il dit, les chefs religieux que vous aviez en général dans vos pays vous ont menti, vous ont donné des fausses visions, des faux espoirs. Ils vous ont donné des fausses fêtes à célébrer, mais ils ont caché mes vraies fêtes. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Et regardez après, ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Alors que nous avons la responsabilité en tant que ministre de dire aux gens ce qu'ils ont à changer dans leur vie pour plaire à Dieu. Mais là, ici, il dit, les faux prophètes dans mes nations n'ont pas mis à nu l'iniquité des gens, n'ont pas dit aux gens, vous transgressez mon sabbat, vous transgressez mes fêtes, changez et je vais vous bénir. Ils ne leur ont pas dit ça, ils ont continué à enseigner des faussetés. Et les gens ont suivi, malheureusement, ont été aveuglés par ces choses-là. M. Ogwin, je l'ai traduit ici, disait ça. Les faux prophètes d'Israël n'ont pas analysé la vraie cause des problèmes nationaux qu'on a. Ils n'ont pas apporté la solution. Et les conséquences extrêmes approchent. Galates 6, verset 7. Ça, c'est un passage que j'ai mis en jaune dans ma Bible. Galates 6 et le verset 7. Le temps de rendre des comptes arrive. Galates 6, verset 7, qu'est-ce que Dieu dit? « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et ce que nos nations ont semé, ils vont bientôt le moissonner aussi. » Dieu a un timing. Dieu a resté longtemps en silence. D'ailleurs, vous irez voir dans Ésaïe 42, verset 14, il le dit clairement. Dieu dit, Ésaïe 42, verset 14, « J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. » Pourquoi? Parce qu'il avait dit à Adam et Ève, « Vous choisissez de faire les choses à votre façon? Faites-le, vous allez voir les conséquences. » Et c'est la triste histoire de l'humanité. On a bâti nos systèmes de gouvernement qui ne mènent pas au bonheur, qui n'amènent pas la paix non plus, ni la vraie abondance, nos systèmes d'école, tout ce que vous voulez, nos systèmes économiques qui ne mènent nulle part, qui créent des problèmes. Dieu dit, je me suis tu, j'ai attendu, j'ai gardé le silence. Mais Dieu est plein de bonté et il ne permettra pas, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y ait une destruction totale des Israélites. Il va maintenir un petit nombre de survivants de la Troisième Guerre mondiale. Matthieu 24. Allons encore à Matthieu 24. Il y a beaucoup. Matthieu 24, on va relire le verset 21 pour nous situer. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. » Mais regardez après, verset 22. « Et si ces jours de grande détresse n'étaient arrêtés ou abrégés, personne ne serait sauvé, c'est-à-dire que personne ne resterait en vie, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, à cause des appelés de Dieu, de ses fidèles serviteurs, Dieu va mettre un terme à ces jours-là pour qu'il reste des gens encore en vie. » Et Jérémie connaissait cet espoir-là. Allez dans Lamentations chapitre 3, si vous avez gardé votre place, là. Lamentations chapitre 3, versets 21 à 25. 21 à 25. Regardez ce que Jérémie dit ici, puis c'est un peu comme la nation d'Israël aussi. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, malgré toutes ces calamités qui approchent. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Dieu. » Et quand on compte sur Dieu, il répond. Dieu dit, « Mets ta confiance en l'Éternel, alors il agira. » C'est ça. Verset 24, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour celui qui le cherche. » Alors, si vous cherchez l'Éternel, si vous cherchez à faire sa volonté, Dieu a des promesses extraordinaires pour vous et il les accomplit déjà parce qu'il vous a gardé même jusqu'à maintenant. Je sais qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui ne seraient sans doute même pas vivants si Dieu ne vous avait pas gardé pour le temps où il vous appelle maintenant. Et il vous prépare un avenir glorieux, merveilleux pour aider les autres êtres humains qui vont survivre à cette Troisième Guerre mondiale. À la fin où nous sommes, si vous remarquez, les gens mettent leur confiance dans quoi? Dans Dieu? Non. Dans les possessions, dans l'argent, dans l'or. Et vous voyez les gens courir pour s'enrichir le plus possible, même en étant parfois le plus malhonnête possible, comme on voit, que ce soit au niveau des gouvernements, au niveau des entreprises et tout ça. Et c'est vraiment épouvantable. Et regardez, Ésaïe 2. On retourne dans Ésaïe, ça vaut la peine. Ésaïe chapitre 2. Ça décrit notre époque. Ésaïe chapitre 2, verset 7. Le pays est rempli d'argent et d'or. Et regardez comment il y a des fortunes d'accumuler. Il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, aujourd'hui de voitures, de tous les moyens de transport que vous voulez, d'avions, de tout ce que vous voulez. Il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant leur grande réussite. Mais regardez le verset 20. « En ce jour, le jour de la grande détresse, les hommes jetteront leur idole d'argent et leur idole d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. » Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de nourriture, vous avez beau avoir un gros tas de dollars, ou de l'or caché, ou de l'argent, ça ne sert à rien, ça ne vous remplit pas l'estomac, et vous ne pouvez pas acheter d'argent, de nourriture non plus. Ça décrit exactement ça, c'est vraiment frappant. Lamentations 4, revenez à Lamentations. Lamentations chapitre 4, versets 4 et 5. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats, les gens les plus riches qui pouvaient se payer les plus grands restaurants, les plus beaux voyages, ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Ceux qui étaient les plus soi-disant nobles se retrouvent dans des situations épouvantables. Et devant de telles calamités, tout le monde est égal. C'est exactement comme devant la mort. Il y aura un manque de nourriture. Et regardez le verset 1 de Lamentations 4. Je vais attirer votre attention là-dessus, ça vaut la peine. Et quoi encore? Comment ça se fait? L'or a perdu son éclat. Oui, elle a perdu son éclat parce qu'elle ne savait pas à acheter à manger. L'or a perdu son éclat. Mais pas seulement ça. Pas seulement ça. Allez dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, s'il vous plaît. Gardez votre place ici, mais allez dans Jacques chapitre 5, où il parle de l'or, des gens qui se sont enrichis, qui sont en train de s'enrichir au temps de la fin, juste avant que la catastrophe frappe. Jacques chapitre 5, versets 1 à 3. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous quand vous ne pourrez pas acheter un morceau de pain avec toute votre richesse. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, et je vais revenir là-dessus, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. On voit de quel temps il s'agit. Et on voit pourquoi il y a tant de gens qui cherchent à ramasser le plus possible en volant et en faisant tout ce que vous voulez, toutes les combines imaginables. Les cours sont remplis de grands personnages qui sont en procès parce qu'ils ont fraudé, qu'ils ont triché. Alors, il dit ici, et regardez, voici verset 4, « Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur, l'Éternel des armées. » Il y a un temps où Dieu va tracer la ligne, où ça va être fini. Ceux qui abusent des autres, qui se sont enrichis dans les derniers jours comme ça, vont devoir rendre des comptes et vont passer par des moments extrêmement pénibles. Encore plus pénibles, je dirais, que d'autres qui ont connu des temps difficiles avant et qui pourront voir ça autrement ou vivre ça autrement. Maintenant, je fais une petite parenthèse ici. C'est intéressant. Il dit dans Jacques ici, « Votre or et votre argent sont rouillés. » De l'or, ça ne rouille pas. Je vous ai donné un sermon dernièrement sur l'or, sur le caractère en or. Et je vous ai expliqué que l'or peut être altéré. L'or peut rouiller d'une certaine façon par des réactions nucléaires. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le fait que l'or accumulé par les riches deviendra rouillé quand nos pays seront attaqués par de puissantes armées européennes qui vont attaquer de façon nucléaire, possiblement aussi, où l'or perdra son éclat, perdra sa beauté naturelle. Vous savez, toute la société moderne s'est séparée de Dieu. Je résume, toute la société moderne s'est séparée de Dieu. Il y a de plus en plus de gens qui disent que le mal n'existe pas. Ça n'existe pas. Je peux faire ce que je veux. Et il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire. Et personne ne me doit me diriger. Les lois n'existent pas. D'ailleurs, on voit, les lois des gouvernements, dès qu'elles sont lancées, ou mis en application, les gens essaient de trouver les moyens pour les éviter. On ne veut pas être dirigé. Et on va voir très bientôt, par l'intervention de Dieu, qu'il existe des lois de Dieu, et qu'on ne peut pas s'en détourner. Lamentations 4 et le verset 6. « Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand. » Regardez bien. « Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome. » Pourquoi il dit ça? Sodome a été détruit en un instant. Il dit après, il dit, le châtiment de la fille de mon peuple, là, Israël, au temps de la fin, il est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant sans que personne ait porté la main sur elle, parce que ça a été une destruction divine que Dieu a faite. Mais pourquoi que le châtiment, à notre époque, de la nation d'Israël sera plus grand? Parce qu'il ne se fera pas en un instant. Il va se faire sur 3 années et demie. De captivité, de camps de concentration, de famine et de problèmes de toutes sortes. Et on voit que tout devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher parce que Dieu retire sa protection aussi et les produits deviennent plus rares. Il y a des sécheresses, il y a des inondations, il y a des feux. Lamentations 5, verset 4. On est rendu là, c'était annoncé. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Dans l'histoire humaine, là, les gens n'achetaient pas l'eau. Il y avait de l'eau partout. Les gens, même nous autres ici au Québec et dans d'autres pays aussi, ça ne remonte pas à beaucoup d'années où les gens achètent leur eau et sont portés à l'acheter de plus en plus parce que l'eau qu'on a de disponible est de moins en moins bonne et peut, dans certains cas, être même à risque. Il dit, nous buvons notre eau à prix d'argent parce qu'il y a rationnement d'eau et il y a rationnement d'eau de qualité et de carburant aussi. Nous payons notre bois. Nous payons notre bois, nos moyens de se chauffer et de se véhiculer. À la fin, Jérémie montre l'espoir. Il montre un espoir extraordinaire. Regardez Lamentations 5, on va aller plus loin. Et on va voir comment Jérémie donne une vision d'encouragement pour ce qui vient. Versets 19 à 21. Il parle à Dieu, il dit, « Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. » Ça, c'est la prière de Jérémie, parce que Dieu va intervenir pour mettre fin à toutes ces calamités-là et à toutes les misères humaines. Vous savez une chose? Nous sommes vraiment bénis de comprendre ces choses-là, de savoir qu'elles viennent et de savoir ce qu'on peut faire pour être proche de Dieu, pour nous mettre à l'abri du Tout-Puissant, sous les ailes du grand aigle qui va amener ses enfants en un lieu de sécurité. David a dit dans Psaume 37, et ça c'est encourageant aussi pour les serviteurs de Dieu et leurs enfants, il dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Je n'ai point vu le juste abandonné, donc celui qui essaie de pratiquer au mieux la justice de Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Il est avec lui pour l'aider à passer à travers, plus que ça. Il dit, « Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, ni ses enfants mendiant son pain. » Dieu est un Dieu de famille. Il bénit ses enfants et il bénit nos enfants aussi. C'est fantastique de voir comment Dieu fonctionne, parce que Dieu est un Dieu de famille. Il y a une autre promesse, et je termine là-dessus, dernier passage. Il y a une autre promesse de Dieu à ses serviteurs. Psaume 91. Psaume chapitre 91. Ça, c'est un passage que je trouve tellement encourageant et qui nous donne une vision de ce que Dieu va faire pour ceux qui essaient honnêtement, de tout cœur, de faire sa volonté, d'observer ses sabbats, ses fêtes, et ainsi de suite. Psaume 91, versets 1 à 4. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ça, c'est celui qui essaie de faire sa volonté. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et dans tous nos problèmes, dans toutes nos situations difficiles, on peut aller à genoux dans notre chambre puis demander à Dieu de nous donner la force ou la vision de passer à travers nos difficultés ou d'aplanir les sentiers pour que les choses s'arrangent. « Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui, regardez bien, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages qui viendra. Il te couvrira de ses plumes. » C'est intéressant, il prend le même langage que quand il dit qu'il va protéger son Église, là, les ailes du grand aigle qui vont l'amener dans un lieu de sécurité. Il dit, « Il te couvrira de ses plumes, comme l'aigle, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. » Et c'est pas tout. Les deux derniers versets, les trois derniers versets, 14 à 16. Psaume 91, versets 14 à 16. Regardez comment c'est joli. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Aimer Dieu, comme la Bible dit, c'est vivre selon ses commandements. C'est mettre ses commandements en pratique. Il dit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » C'est Dieu qui parle. « Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Il disait tantôt dans Apocalypse 3, « Parce que vous avez gardé ma parole, je vais moi aussi vous garder. » Je vais vous protéger à l'époque de la grande détresse. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Pourquoi il va répondre? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on va l'invoquer. On va l'avoir fait longtemps avant parce qu'on voulait être proche de lui. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui. Regardez où? Quand? Dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lui donnerai, pardon, la vie éternelle. C'est ça le salut. Je lui donnerai la vie éternelle, être épargné de la mort éternelle. Alors, voyez-vous, Lamentation de Jérémie, ça nous apprend beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr, sur la grande détresse, mais aussi, et c'est tellement encourageant, sur la protection de Dieu à ses fidèles serviteurs. Et par après, quand tout ça sera terminé, la délivrance de l'humanité avec le retour du Christ. Et là, on aura un travail formidable à faire pour aider les nations. Dieu a un plan extraordinaire. On peut rêver des belles choses qui viennent. Il y a des choses difficiles, oui, mais Dieu va nous donner la force de passer à travers. Il va bénir sa petite Église. Il y a plein de promesses pour chacun de ses enfants dans la Bible.